Session de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 16 mai 1996, troisième conférence.
Et il ne parle pas de l'homme parfait. amusant. C'est amusant de voir que tout de suite, on repense logiquement. Alors que j'essaie de vous faire sortir de la logique et entrer en philosophie. Et pour ça, il faut repartir de l'expérience. Et on a 5 siècles depuis le 14e siècle. Alors si vous voulez. Depuis le 14e siècle, la philosophie s'identifie à la logique. C'est Occam, un théologien franciscain de Londres, qui textuellement dit que la métaphysique, c'est la logique. Et comme la logique, c'est nous qui la faisons, nous l'aimons beaucoup. Une mère considère toujours que son petit enfant, c'est le plus beau de tous les petits enfants. Et comme la logique, ça vient de nous, c'est magnifique. Je n'ai pas de concept de l'amour d'amitié. Vous voyez, autrement, je pourrais définir l'amour d'amitié. J'essaie de comprendre. Vous voyez, et les choses importantes, on ne les définit pas. On les saisit. On essaie de préciser. L'amour d'amitié, pour moi, ça touche la finalité. L'ami me finalise. Et l'amour d'amitié est dans la lumière même de la finalité. Ah, ça touche un principe, l'amour d'amitié. C'est donc un acte au-delà de toutes les définitions. C'est une réalité très profonde en moi. Mais, vous voyez, alors, comprenons que l'amour d'amitié, j'essaie de le comprendre à partir de mon expérience. Et non pas à partir de la nature de l'homme. J'ai une expérience de l'amour d'amitié. Et j'essaie de comprendre ce qu'est l'amour d'amitié. En découvrant comment l'amour d'amitié, c'est ma première finalité. Ce qui donne à ma vie son sens. Vous comprenez bien que ce n'est pas un concept qui donne à ma vie son sens. Sauf pour les idéologues. Mais depuis Occam, on vit dans l'idéologie. Alors on cachera l'idéologie en disant c'est une philosophie idéaliste. J'aime mieux dire idéologie, moi. Donc vous voyez, je réponds en disant que vous êtes resté dans la logique et que nous essayons d'en sortir. Alors on en sort progressivement. Hein. Ce soir, demain, surtout, on essaiera d'en sortir. Pour savoir pourquoi je vis, ne faut-il pas d'abord connaître ce qu'est la vie ? Non. Pour connaître ce qu'est la vie, il faut connaître ce qu'est l'être. Quel est l'ordre des interrogations ? L'ordre de l'interrogation, c'est l'expérience que j'ai de l'amour d'amitié. À partir de cette expérience, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'amour d'amitié ? Et je dis, c'est une opération d'amour. On verra ça demain. Donc c'est très bien, posez la question, puisqu'on répondra demain. Donc ça vous éveille. C'est pour ça qu'il faut poser. Vous voyez, je peux répondre rapidement. Alors, c'est quelquefois un peu brutal. Mais toute interrogation est intelligente et vous permet d'avancer. Ben, c'est Merleau-Ponty qui dit « L'idéaliste n'interroge plus. » Donc quand on interroge, ça vaut qu'on cherche une philosophie réaliste. Ça vous console. Même si on tombe dans le piège de la logique, ça prouve qu'on veut en sortir. Et c'est pas commode, croyez-le bien. Puisque on est resté 600 ans dans la logique. Ou 400 ans dans la logique. C'est extraordinaire. L'attrait de la logique. La puissance de la logique. Oui. Je terminais tout à l'heure en disant que l'expérience que j'ai de l'amour d'amitié, c'est une expérience très particulière, différente de l'expérience du travail. Je ne confonds pas. Je sais très bien que j'ai une expérience du travail constante et que j'ai aussi une expérience de l'amour d'amitié. Vous voyez, vous travaillez dur, travail manuel, la lessive, la cuisine, n'importe quoi d'autre, et puis travail intellectuel, il y a un travail intellectuel. Mais pendant la guerre, les travailleurs manuels avaient une carte de travailleur, et les travailleurs intellectuels n'avaient pas de carte de travailleur. Et une fois en Suisse, je me souviens, il y avait un chien qui était assuré pour toutes les morsures qu'il pouvait faire, même si c'était mortel, il était assuré. Ça aurait été. Alors une fois, il a sauté sur moi. Depuis, j'ai peur des chiens. Mais là, il sautait sur moi. Je récitais mon avis, je ne voulais pas de mal, je ne le regardais même pas. Alors, comme il était assuré et que son propriétaire était un gros banquier de Fribourg, il y avait le jardinier qui regardait de loin. Il m'a dit, ah oui, le chien, il n'aime pas les curés. Il dit, le propriétaire du chien, est-ce qu'il aime les curés? Oh, je sais pas, plus que son chien, je crois pas beaucoup plus. Alors il m'a tout de suite dit que le chien était assuré. Il m'a dit, allez à sa banque, vous le trouverez, vous direz que le chien vous a mordu. Alors très bien, c'est ce que j'ai fait. Puis après, je lui dis, hein, j'ai perdu une heure, monsieur. Ça m'a fait perdre une heure. Vous êtes travailleur manuel. Êtes-vous maçon? Je dis, non, je suis professeur à l'université. Donc, travail intellectuel. Alors, on ne perd rien. C'est assez extraordinaire, hein, ça. Et c'est partout comme ça. C'est pendant la guerre, c'est comme ça. C'est partout. Ça ne se compte pas. On m'a payé. Comme il était bien assuré, ce chien. Chaque morsure, et comme c'était net, il était bien assuré. Il y avait deux dents. Donc. C'est une expérience, hein, d'être mordu par un chien. Et on s'en rappelle. On voit ce que c'est que les racines du chien. Et les racines du chien, ordinairement, est assez bien aiguisé. Quant à ses dents. Alors, on a l'expérience de l'amour d'amitié. Un lien avec un bien qui nous finalise. Et je crois, on essaiera de comprendre ça demain, que c'est cet amour d'amitié qui me permet de comprendre, au plan philosophique, ce qu'est la morale fondamentalement humaine. Sur cette morale fondamentalement humaine, philosophe découvre l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Cette première finalité, qui est l'amour d'amitié, est dépassée. Parce que si Dieu existe et qu'il est mon créateur, il est plus que n'importe quel ami. Ma fin, je suis fait pour le découvrir et contempler autant que je le peux. L'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Le mot Dieu a été inventé par les traditions religieuses. Ce n'est pas premièrement un mot philosophique. Il devient philosophique dans la mesure où le philosophe découvre par lui-même l'existence de cet être premier qu'on appelle Dieu. C'est le même problème pour l'âme, vous voyez. Le mot âme a été d'abord découvert par les traditions religieuses et dans les traditions religieuses. Et Platon a essayé de voir si ce terme âme était d'ordre mythique, d'ordre symbolique, ou qu'il exprimait une réalité. Et toute la philosophie de Platon, c'est une philosophie qui cherche à comprendre ce qu'est l'âme au plan philosophique. Je crois qu'on peut le dire. Le mot âme a été introduit dans la philosophie, comme le mot Dieu. Il a été introduit dans la philosophie. Le mot Dieu avant le mot âme. C'est toujours intéressant. Vous voyez, de voir la naissance d'un mot pour comprendre sa signification première et voir d'où ça vient. Parce que ça explique beaucoup de choses. Vous voyez, parce que beaucoup de philosophes considèrent que le mot âme et que le mot Dieu n'a rien à faire avec la philosophie. Alors que c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que ces mots sont en premier lieu des mots de tradition religieuse. Et les philosophes ont montré que ces mots avaient une signification philosophique, c'est-à-dire exprimer une réalité, et pas seulement un mythe, pas seulement un symbole. Et c'est vrai, c'est la question qu'on peut se poser. Savoir si un psychologue, quand il parle de Dieu, est-ce que pour lui, c'est symbolique? Est-ce que pour lui, ça correspond à une réalité? Si Dieu existe, et que je découvre son existence, être premier, immédiatement il y a un acte nouveau, un amour nouveau qui apparaît, un amour fondamental pour celui qui est la source de mon être, pour celui qui est à l'origine de mon être. Et cet amour fondamental, c'est l'adoration. L'adoration est un acte d'amour. Et à partir de l'amour, on peut se poser la question, est-ce que je peux contempler l'existence de cet être premier ? Est-ce que je peux contempler cet être premier ? l'amour d'amitié à l'égard d'un ami. Homme n'est plus ma seule finalité. Ma finalité plus profonde, c'est de contempler en adorant ce qu'est Dieu. Il y a donc une nouvelle finalité qui apparaît. Quelle est la finalité de l'homme? Ce pourquoi chrétienne échappe aux philosophes, est au-delà de ce que la philosophie peut dire. Mais si le philosophe est vraiment un philosophe réaliste, il s'intéresse à tout ce qui est humain. Il n'a pas le droit de mesurer l'homme selon ses idées. L'idée qu'il a de l'homme, il serait un idéologue. Un philosophe qui est un vrai philosophe et qui s'occupe à toute expérience humaine et qui s'intéresse à l'homme dans toutes ses dimensions doit se poser la question. Y a-t-il une éthique chrétienne? Cette éthique chrétienne, elle se fonde sur une personne qui s'est dit fils de Dieu et qui a voulu venir sauver les hommes. Le philosophe sait très bien, en tant que philosophe, qu'il ne peut pas adhérer directement au mystère de Jésus. Il faut la foi pour recevoir les paroles de Jésus et l'enseignement de Jésus comme un enseignement divin. Mais le philosophe peut s'intéresser à ce que l'adhésion de foi au Christ, l'espérance que donne Jésus et la charité à son égard, ce que les trois vertus théologales font transformer la part humaine. Ça, il a non seulement le droit de le faire, mais il a le devoir. Autrement, il n'est plus philosophe, puisque il a un a priori contre ce que Jésus, comme homme, est venu apporter à de la telle apporte à l'humanité un bonheur, une béatitude. Si Jésus apporte à l'humanité une nouvelle dimension d'être comme un surhomme, le philosophe a le devoir de regarder attentivement ce que Jésus, par sa grâce, apporte à l'homme. Et donc il doit regarder ce qu'est cette éthique chrétienne. Vous voyez, au début du siècle, on faisait des apologétiques par rapport à la vie chrétienne. Aujourd'hui, les apologétiques sont usés. Ça ne prend pas très bien. Il y en a un peu raison, du reste, parce que c'est de la rhétorique. Mais je crois que le chrétien devrait avoir suffisamment d'intelligence pour pouvoir dire ouvertement qu'il y a un homme qui a vécu avec les autres hommes et qui leur a apporté le salut. Et qui a fait que l'homme, grâce à lui, a une nouvelle dimension. Et donc, le philosophe doit essayer de comprendre ce qu'est cette éthique chrétienne. voyez bien ce regard du philosophe sur le Christ, sur l'enseignement du Christ. Ce n'est pas l'enseignement. ceci ne peut se réaliser que grâce à un mystère de charité divine. Alors, nous regarderons successivement, et ça vous permettra de comprendre ces trois niveaux, en analysant l'amitié humaine, en analysant l'adoration et l'amitié religieuse à l'égard de Dieu, et en analysant l'agapé divine pour l'éthique chrétienne. Et vous pourrez, à l'égard de n'importe quel problème, aujourd'hui, bien voir ces trois regards distincts. En opposition, au contraire, l'éthique chrétienne implique l'éthique religieuse. L'éthique religieuse implique l'éthique humaine. Il n'y a pas d'opposition dialectique entre ces trois moments. Il y a au contraire une continuité. Mais il y a bien des niveaux distincts entre l'éthique fondamentalement humaine, l'éthique religieuse, il y a une continuité nécessaire. Entre l'éthique religieuse et l'éthique chrétienne, il n'y a pas de continuité nécessaire, puisque la grâce est donnée gratuitement, et que la grâce surélève la nature humaine à un niveau qui est au-dessus du point de vue religieux. Un lien de gratuité. Et ceci, si on arrive à bien le comprendre dans notre vie, nous permet de garder un dialogue authentique et vrai à l'égard de tout homme. Car je ne parle pas le même langage quand je parle à des chrétiens que quand je parle à des hommes qui cherchent la vérité. Chrétiens. Je ne parle pas le même langage à des chrétiens et à des hommes qui ne sont pas chrétiens mais qui reconnaissent que Dieu existe. Et le problème de l'avortement, par exemple, doit être regardé dans ces trois lumières. La lumière chrétienne, qu'est-ce que vous dites? La lumière religieuse, qu'est-ce que vous dites? La lumière humaine, qu'est-ce que vous dites? Or, la plupart du temps, on confond les trois. Et donc, les arguments qu'on donne n'ont pas de valeur. Parce qu'on ne sait pas exactement où porte l'erreur. Oui. Pour supprimer les tremblements apocalyptiques.